Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Maurès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Maurès sur Nutri Radio, chaque mercredi entre 17h et 18h, si vous nous écoutez sur le live et puis en podcast, sinon c'est à partir du dimanche, 18h, le tour du cerveau pour mieux comprendre comment nous fonctionnons, comprendre les hauts, les bas. Et parfois c'est des choses qui sont très acquises, d'ailleurs c'est souvent acquis, on ne cherche pas à comprendre, c'est bien de tout disséquer. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre le phénomène des addictions avec vous, Célia. Qu'est-ce qu'une addiction ?
Alors effectivement Fabrice, déjà il faut savoir qu'il faut poser les termes qu'est-ce qu'une addiction. Parce que je trouve que ce mot est utilisé un petit peu de manière trop fréquente et à tort et à travers. C'est pour ça que je voulais vraiment focaliser dessus. Déjà il y a une différence entre un abus, une dépendance on va dire et une addiction. Bien que la différence entre dépendance et addiction soit très très mince et que même les addictologues se battent un petit peu sur ces définitions précises. Donc c'est pas si simple que ça. Effectivement, de définir une addiction. Donc déjà, l'abus, on va commencer par ça. L'abus, c'est quoi, chers auditeurs ? C'est quand on abuse, par exemple, un peu trop d'alcool, quand on a fait un petit peu la fête et qu'on prend la voiture avec un petit peu une alcoolémie, on va dire, un score, un taux d'alcoolémie un peu plus important qui peut nous conduire, finalement, on conduit en état d'ivresse, on a un petit accident. Donc là, ça peut avoir des répercussions judiciaires, mais ni plus ni moins, va-t-on dire. Ensuite vient la dépendance et les addictions. Alors pour moi, ce que je qualifie d'une addiction, c'est une dépendance XXL. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement, pratiquement la même chose, sauf que pour moi, une addiction, et pour la plupart des addictologues que j'ai pu lire, que j'ai pu rencontrer aussi, avec qui j'ai pu échanger, chers auditeurs, considèrent l'addiction comme une dépendance XXL. Alors qu'est-ce qu'une addiction ? D'abord, c'est le fait d'être dépendant du coup effectivement à quelque chose. C'est le fait de ne pas pouvoir se passer soit d'une substance, soit du comportement, parce que ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est qu'il y a deux types d'addictions, et nous y viendrons un jour justement dans une émission sur Nutri Radio pour bien différencier ce qui est une addiction aux substances et les addictions au comportement. Mais on va être addict à cela, comme on dit. On ne va pas pouvoir se passer ni de la substance, ni du comportement. On va éprouver du plaisir en faisant cela, donc en consommant la substance ou en faisant le comportement. Ça va aussi soulager nos tensions internes, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas eu notre dose de substance, par exemple notre verre d'alcool, tant qu'on n'aura pas eu aussi notre cigarette ou tant qu'on n'aura pas fait notre sport, parce que oui, chers auditeurs, l'addiction au sport existe, eh bien, on va être tendu, on va pas être bien et le fait de faire ce comportement va abaisser finalement nos tensions internes. C'est aussi le fait de ne pas pouvoir s'en passer. Malgré les conséquences négatives, qu'elles soient professionnelles, on peut se faire virer, qu'elles soient évidemment personnelles, on s'engueule avec ses proches, qu'elles soient au niveau de la santé, ça a des répercussions santé, notamment si on est dépendant, addict à l'alcool ou évidemment au tabac, et là je ne parle que des substances licites, bien évidemment. Et finalement, on va avoir mis en place certaines stratégies pour justement diminuer ces addictions, sans y parvenir. Et en plus, on va avoir par rapport à cela ce qu'on appelle un comportement impulsif et compulsif. Donc impulsif, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'arrêter, il faut le faire tout de suite. C'est un petit peu le gamin qui fait sa crise de nerfs, c'est un petit peu ça. Et compulsif, c'est-à-dire qu'on va ne penser qu'à cela, être omnibulé que par ça. Il faut savoir que suite à ça, on va avoir les effets aussi des addictions qui marquent une addiction. Ces deux effets, c'est l'effet de tolérance, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir augmenter les doses pour pouvoir, ou le temps passé à faire le comportement, pour pouvoir éprouver le même plaisir ou soulager nos tensions. Et ensuite, bien évidemment, il y a le sevrage, c'est-à-dire que si on ne prend pas la substance ou si on ne fait pas le comportement, on va être très très mal avec des répercussions, finalement physiques, physiologiques, psychologiques. Pourquoi ? Parce que ça va être violent pour le corps qui va devoir se réadapter à ce manque-là. Voilà ce qu'est une addiction.
Vous avez raison, c'est vrai que la différence est ténue entre la dépendance et l'addiction. Franchement, là, pendant que vous parliez, j'étais en train de me dire, mais oui, alors c'est ce que c'est les médicaments, par exemple. On peut être dépendant de médicaments pour sa santé. Est-ce que pour autant on est addict si on a un traitement ? Par exemple, pour l'hypertension, on est dépendant peut-être d'un traitement pour maintenir une tension équilibrée et on n'est pas addict pour autant.
Alors non, là on n'est pas addict et là on peut même pas parler de dépendance parce que c'est notre santé qui en dépend. Donc si on prend pas le médicament, on va avoir des problèmes. Là où on parle de dépendance, ça peut être la dépendance à certains médicaments comme les hypnotiques, les barbituriques parfois pour dormir. Donc bon, ceux qui sont connus, le Stignox, l'Imovan, etc., sont des médicaments pour lesquels on peut devenir dépendant. L'addiction, ça serait vraiment un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir pour une addiction, il y a vraiment des répercussions très importantes sur la vie quotidienne. Une dépendance, finalement, quelqu'un peut fonctionner, va-t-on dire, correctement. C'est le cas de l'alcool, hein. Finalement, une personne addicte à l'alcool, ça peut entacher son travail, c'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à se faire renvoyer, divorce, etc., et finir dans la rue telle que l'on voit les personnes qui sont finalement alcooliques, comme on les appelle, même si c'est pas un terme que j'aime, dans la rue. Les dépendants, ça peut être des personnes qui fonctionnent très bien, mais si elles n'ont pas leur dose d'alcool, elles vont être incapables de travailler. C'est un petit peu ça la différence. Au niveau des médicaments, je suis d'accord avec vous Fabrice, hein, puis chers auditeurs, on y viendra, je ferai une émission dédiée parce qu'on n'y pense pas assez aux médicaments, mais il y a des problèmes notamment avec les médicaments antidouleurs, hein, comme le tramadol, la codéine, etc., où on peut devenir dépendant et ça peut conduire à une addiction plus importante puisqu'on sait que pour soigner une dépendance au tramadol, on est allé jusqu'à donner des substituts, justement les mêmes. Donc, je crois que c'était du Subutex, si je ne me trompe pas, mais voilà, parce que bon, il faudrait que je vérifie cette information-là, mais en tous les cas, les mêmes médicaments que l'on donne de substitution que l'on donne pour les personnes qui sont addictes à l'héroïne et qui sont en train de se sevrer. Donc, on imagine bien que oui, il y a une dépendance importante. Voilà, après, effectivement, ce sont des personnes quand même, Fabrice, je l'accorde, chers auditeurs, je l'accorde, qui fonctionnent quand même correctement et qui ne sont pas à la poursuite simplement de la substance. Elles ont besoin de la substance pour plus souffrir. Donc moi, je parlerais plutôt de dépendance, à voir avec les addictologues où est la barrière et à quel moment on passe en ce que j'appelle moi version XXL.
Très bien, et bien écoutez, on marque une toute petite pause XS et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, la suite de cette émission passionnante sur les addictions. Vous nous avez expliqué ce qu'était l'addiction, la différence entre addiction et dépendance. On va parler maintenant avec vous des mécanismes neurobiologiques, Célia.
Alors totalement. Souvenez-vous, chers auditeurs, la semaine dernière ou il y a quelque temps, nous avons fait une émission sur le système de récompense, comment il fonctionnait. Et vous avez expliqué que lorsque vous prenez du plaisir, vous prenez du plaisir à écouter Nutri Radio ou à regarder Nutri TV, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une libération de dopamine qui est le neurotransmetteur impliqué dans le plaisir et la motivation à refaire un comportement. Ça, c'est très très bien. C'est bénéfique parce que c'est grâce à cela que vous vivez normalement et que vous pouvez répondre aux sollicitations de votre environnement. Cependant, en cas d'addiction, ce qui va se passer, c'est qu'on va surstimuler ce système de récompense. C'est-à-dire qu'il va y avoir trop de dopamine qui va être libérée. Et là, c'est mauvais. Parce que finalement, c'est une balance. C'est libéré, puis ensuite, il y a des neurones qui vont permettre finalement de diminuer l'activité dopaminergique pour la faire revenir à la normale. C'est un système de balance, ça monte, ça descend, c'est normal pour être à peu près à ce qu'on appelle à l'équilibre. Or, lorsqu'on est addict à un comportement, lorsqu'on est addict à une substance, et ça se voit encore plus pour les substances, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à montrer, puisqu'on arrive à savoir maintenant, finalement grâce à des marqueurs, où se fixe la substance et qu'est-ce qui se passe réellement au niveau neurobiologique. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau des substances? Ça va agir sur soit sur les neurones dopaminergiques eux-mêmes, soit sur les neurones qui contrôlent les neurones dopaminergiques. Donc, soit ça va stimuler les neurones dopaminergiques, soit ça va empêcher l'inhibition des neurones dopaminergiques. Je vais prendre des exemples. Par exemple, l'alcool ou les opiacés vont finalement inhiber l'action des neurones GABAergiques. Or, ces neurones GABAergiques sont les neurones qui permettent de diminuer l'action dopaminergique. Ce qui veut dire qu'en diminuant l'action des neurones GABAergiques, chers auditeurs, via l'alcool, la prise d'alcool ou la prise d'opiacés, ça va laisser libre cours, libre champ, aux neurones dopaminergiques de continuer à décharger de la dopamine et vous allez vous retrouver avec trop de dopamine. La même chose se passe pour la nicotine et pour les amphétamines. Qu'est-ce que vont faire ces deux substances ? La nicotine va empêcher, par exemple, la dégradation de la dopamine et les amphétamines vont empêcher la recapture par le neurone présynaptique, donc le premier neurone, celui qui a libéré la dopamine dans la fameuse fente synaptique. Souvenez-vous de l'émission sur la neurotransmission synaptique, comment est-ce que cela se passait au niveau des synapses entre deux neurones. Finalement, ça va faire quoi ? Ça va faire en sorte que ça va prolonger l'effet de la dopamine. Pourquoi ? Ben parce que si elle tarde à être dégradée ou elle tarde à être recapturée, comme on dit, elle va rester dans la fente synaptique et prolonger évidemment son effet. C'est ça le problème au niveau des addictions, c'est que ça surstimule le système de récompense. Sauf que votre corps, votre cerveau du moins, va réagir à cette stimulation. Il va, si vous voulez, il y a trop de dopamine, il va bien falloir qu'il réagisse. Et c'est ce qu'on appellera le phénomène de tolérance qui est typiquement biologique. Tout simplement, il va s'adapter. Donc, il va diminuer la sensibilité de ses récepteurs parce qu'ils seront trop stimulés, donc ils ne pourront pas prendre en charge toute cette dopamine. Il va diminuer parfois, dans certains articles, ça a été noté aussi, le nombre de récepteurs à dopamine, ce qui fait que pour avoir les mêmes plaisirs, pour ressentir les mêmes effets de plaisir et de soulagement des tensions internes, on va avoir besoin d'augmenter les doses pour que cette dopamine puisse être prise en charge. Donc, c'est ça le problème. Surstimulation de ce système dopaminergique en activant les neurones dopaminergiques, en inhibant la recapture ou la dégradation de la dopamine, donc en prolongeant l'effet de la dopamine dans la fente synaptique, ou alors en inhibant l'effet des neurones GABAergiques, qui sont les neurones inhibiteurs et qui permettaient effectivement de faire redescendre, d'inhiber l'activité des systèmes dopaminergiques.
Ah là là, qu'est-ce que c'est bien expliqué. Vous êtes en pleine forme, Célia. Permettez-moi de vous
totalement.
Dire. Totalement. Je sens que vous êtes là comme sur un nuage, comme vous êtes dans votre assiette, dans votre élément. Vous plottez là, comme c'est magnifique, on comprend tout. Et si vous venez d'arriver et que vous n'êtes pas concentré, vous écoutiez comme ça de manière... Rassurez-vous, l'émission sera dispo en podcast à partir de 18h ce dimanche. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour faire le tour de ces addictions. Et on va poser la question, évidemment, en fin d'émission à Célia. Quelle est son addiction ? C'est sans langue de bois, on en parle juste après ceci.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
On parle des addictions avec Célia Morès sur Nutri Radio et... Après avoir expliqué ce qu'étaient les addictions, après avoir expliqué les mécanismes neurobiologiques, nous allons maintenant plonger à l'origine de ces addictions avec vous, Célia.
Alors totalement, Fabrice et chers auditeurs, parce que finalement, d'où viennent les addictions ? Parce que moi, j'ai entendu dire dans mon entourage, mais puisque ça vient de là, il n'y a qu'à détruire la plante, il n'y a qu'à détruire finalement pour plus qu'on puisse avoir finalement l'héroïne, etc. etc. Oui, mais non. Parce qu'en fait, à l'origine des addictions, ça partait d'un bon sentiment, on va dire. Alors d'abord, ça a été découvert, les effets de certains produits, on va le voir, de manière un petit peu au hasard. Mais surtout, c'est à partir d'un bon sentiment parce que c'était pour créer des antidouleurs. Ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est qu'il y a quelques milliers d'années, il n'y avait pas d'antidouleurs. Les personnes qui partaient au combat, les militaires, on va dire, de l'époque, ben quand ils étaient blessés, ils souffraient le martyr parce qu'il n'y avait pas la possibilité de soigner la douleur et de diminuer la douleur. Et comment est-ce que ça a été découvert, ces produits-là ? C'est il y a 5000 ans, les Sumériens, alors les Sumériens, c'est l'Irak aujourd'hui, ont découvert le pavot, mais ils ont surtout découvert au niveau de cette plante-là qu'il y avait une substance blanche qui s'écoulait, l'opium, et que cet opium avait des vertus antalgiques. Donc, ça a été consommé sans modération pour, évidemment, soigner les douleurs physiques que ressentaient notamment les militaires. Ça s'est poursuivi, et maintenant, on fait un bond dans le temps, et on arrive à la période de l'Antiquité chez les Grecs. Chez les Grecs, ils ont découvert deux choses sur cet opium. Certes, ça soignait les douleurs physiques des combattants, mais ça soignait aussi les douleurs de l'âme, ça diminuait l'anxiété. Et d'ailleurs, dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, on en parle justement de la prise de cette substance blanche, de l'opium, par rapport à la plante qui est le pavot. Hein, l'opium est originaire du pavot, découle du pavot. Et effectivement, pour soigner cette anxiété-là. Sauf qu'eux, ils découvrent quoi ? Ils découvrent qu'il y a une accoutumance. que les personnes qui en prennent, il y a une dépendance qui se crée. Et puis, c'est un petit peu oublié, va-t-on dire, apparemment au Moyen-Âge, pas tellement utilisé, pour avoir un rebond au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, évidemment, on arrive finalement à la médecine un peu plus scientifique, si je puis dire. En tous les cas, il y a des recherches qui sont menées, hein, bien évidemment, par des médecins, des chercheurs, des neurobiologistes, ceux de l'époque. Et un médecin décide de mélanger cet opium-là avec de l'eau pour en faire un médicament qui soignerait la dysenterie, donc c'est la courante, hein, va-t-on dire. Ça soignerait les calculs rénaux, ça soignerait les ulcères. Mais effectivement, y a des problèmes d'accoutumance à ce niveau-là aussi qui commencent à être vus, au point même que l'opium va être détourné de son indication première et va être fumé par certains artistes, notamment, je crois que c'est Charles Baudelaire qui fumait de l'opium, il n'était évidemment pas le seul. Et c'est détourné, comme aujourd'hui, chers auditeurs, on le voit avec certaines substances comme la codéine, que maintenant on ne peut avoir que sur ordonnance, les sirops à base de codéine, tout simplement parce que ça a été détourné à des fins d'addiction, on va dire, en tous les cas, à des fins pour se droguer, non pas pour se soigner seulement. Donc là, on est au XVIe siècle. On arrive au XIXe siècle, évidemment, la recherche continue, il faut le savoir. Et là, on décide, les médecins de l'époque, parce qu'évidemment, je n'étais pas née, je rassure tout le monde. C'est ton 20 mai.
Ou alors vous ne le saviez pas.
On décide, j'ai rien décidé moi, mais effectivement.
Ouais. Alors vous ne le saviez pas. Ça se trouve, on se rencontrait. Ça se trouve, on s'est rencontrés à cette époque-là. Que saviez-vous?
Ah, effectivement. Peut-être qu'on est tous réincarnés. Ça, c'est autre chose.
Une autre émission. Allez, l'année prochaine, émission.
Sur la réincarnation.
Avec Alix.
Mais effectivement, surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, ils commencent à extraire les substances actives du pavot. Et qu'est-ce qu'ils vont extraire? La morphine et la codéine. Morphine et codéine qui sont effectivement des analgésiques, qui sont des antalgiques, qui sont donnés comme des antidouleurs, qui sont encore aujourd'hui utilisés. Sauf évidemment, il y a une dépendance qui se crée, bien évidemment. Donc, il commence à y avoir d'autres recherches. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer puisque ça ne va pas, ça crée des dépendances, il va falloir trouver autre chose. Et arrivent les fameuses feuilles de coca qui nous viennent donc d'Amérique latine. De l'autre côté de l'Atlantique, ces feuilles de coca qui étaient mâchées, qui étaient stimulantes, etc. Et premier médecin, pour soigner certains maux, commence à mélanger des feuilles de coca avec du vin. Sauf que, comme ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, en pleine prohibition, le vin, alcool interdit, il faut remplacer. Né le fameux Coca-Cola. Et oui, chers auditeurs, au départ, le Coca-Cola, c'était des feuilles de coca mélangées à des feuilles de cola, cola finalement qui contenait de la caféine, qui provoquait cet effet stimulant. Sauf que là encore, on découvre que y a une dépendance et qu'il va bien falloir arrêter cela. Du coup, il n'y a plus de feuilles de coca dans le Coca-Cola. On est bien d'accord.
Encore heureux,
mais à l'époque c'était ça et c'était un médicament en fait, quand même, il faut le savoir. Mais du coup, la recherche continue et finalement, on va aussi extraire de ces feuilles de coca de la fameuse cocaïne que Freud aura testée sur lui-même d'ailleurs. Freud aimait bien tester, il a testé sur lui-même et finalement, il n'est pas le seul certainement, mais en tous les cas, les pharmacologues de l'époque découvrent quoi? Que cette cocaïne avait deux effets. À la fois un effet stimulant, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui encore aujourd'hui vont prendre de la cocaïne pour être stimulées, pour pouvoir tenir finalement tout ce qu'ils doivent faire, parce que un peu comme on prendrait, du moins c'est interdit en France certes, mais des amphétamines, et il y avait un effet aussi anesthésiant, mais anesthésie locale. Et effectivement, là aussi, il va y avoir ce qu'on appelle une accoutumance qui va se créer à la cocaïne. Donc, ils ne trouvent rien de mieux que de faire quoi? De chercher une autre substance et ils trouvent l'héroïne. Donc, ils ont remplacé finalement la cocaïne, la morphine par de l'héroïne pour soigner les douleurs. Sauf qu'évidemment, les effets de l'héroïne sont évidemment très importants. C'est probablement la substance qui est la plus addictogène, c'est-à-dire que généralement, il faut savoir que lorsqu'on prend une fois de la cocaïne, on ne va pas devenir dépendant ou addict à la cocaïne. C'est pareil pour la codéine, c'est pareil pour la morphine, bien évidemment, qui sont d'ailleurs encore utilisées au niveau médical. En revanche, l'héroïne, une seule prise, va rendre la personne dépendante. Parce que finalement, au niveau de la libération de dopamine, ça va avoir un pool de libération tellement important qu'on sait qu'une seule prise ne pardonne pas généralement. Et donc, évidemment, ça, de par le fait de la recherche médicale, si je puis dire, finalement, ça a créé des toxicos. C'est ce qu'on appelle des toxicomanes parce que justement, bah, c'était pour soigner les douleurs. Après, ça a été détourné. Mais ça vient de là, c'était pour créer des antidouleurs. Et aujourd'hui, on sait tout simplement, chers auditeurs et chers Fabrice, et voilà, c'est que finalement, la morphine, la codéine, l'héroïne et l'opium viennent de la même plante parce que l'héroïne vient aussi du pavot. Ça dépend comment c'est extrait par rapport aux, finalement, aux réactions chimiques. Normalement, ça fait pavot, opium, morphine et ensuite il y a l'héroïne. Alors, je ne sais pas comment ils extraient de la codéine, mais c'est extrait de la codéine et aussi extrait du pavot puisque le mot codéine vient du grec codeia, chers auditeurs, et codeia, ça signifie, c'était par rapport à la tête du pavot. Donc, c'est vrai qu'en fait, ça partait d'un bon sentiment, ce sont des antidouleurs et aujourd'hui, on le voit, certes, la morphine, il y a certainement des addictions à la morphine, de la dépendance à la morphine, mais on le voit aujourd'hui avec les personnes qui prennent du tramadol ou de la codéine, même du paracétamol mélangé à la codéine ou à du tramadol, ces antidouleurs-là, et qui deviennent addicts ou du moins dépendants à ces médicaments. Et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les publications, dans les journaux, les problèmes de dépendance que créent ces médicaments, mais tout simplement parce qu'effectivement, ça crée une dépendance. Et effectivement, il faut faire vraiment attention à la consommation, d'où le fait qu'aujourd'hui, ce soit de plus en plus réglementé et que, par exemple, pour le tramadol, on ne peut plus avoir, chers auditeurs, une ordonnance à 1 an, comme c'est le cas pour d'autres médicaments, mais que ça a été abaissé à 6 mois.
Eh bien, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. J'aime bien, moi, quand vous mêlez ces histoires, l'art, vos connaissances et votre savoir, en plus de cet aspect explication du fonctionnement du cerveau. Et alors, vous parlez de l'opium. Vous savez qui disait que c'était... deux questions. Qui a dit, qui a lancé l'expression « l'opium du peuple » et à quoi ça faisait référence? Vous le savez, ça, Célia?
Je l'ai su, et alors là, j'ai un trou de mémoire, j'ai honte.
Ah voilà, vous bloque, mais vous inquiétez pas, je sors ma science, c'est 2-3 trucs dont je me souviens, mais il me semble que c'est, comment il s'appelle, je ne sais plus, Louis de Funès, non, je plaisante. Il me semble plutôt que c'est le philosophe, là, Karl Marx, qui avait dit que la religion était l'opium du peuple, me semble-t-il, mais à vérifier, évidemment, ça c'est, ça vous dit rien?
Alors, vaguement quelque chose, mais alors, vers vous Fabrice, je suis désolée, chers auditeurs. Alors, peut-être que quelqu'un parmi vous a la réponse, mais c'est quand même quelque chose que j'ai carrément oublié. Moi qui travaille sur la mémoire.
C'est pas bien, hein, c'est pas bien. C'est mais pas bien. Je suis pas sûr, à vérifier. S'il y a un auditeur qui peut me confirmer que cette phrase, enfin, que l'opium du peuple, c'était bien de Karl Marx et qu'il se référait à la religion, et vous, n'hésitez pas, et si je dis une grosse bêtise, on oublie. Vous oubliez. Merci beaucoup, Célia. On va se retrouver la semaine prochaine pour ce qui sera la dernière émission de la saison. Et n'oubliez pas de vous faire toute belle, comme d'habitude, pour ce vendredi, car c'est ce vendredi que on vous attend pour le NutriTalk Gala. Rendez-vous à partir de 16h au Sheraton si vous avez votre place. Sinon, ne vous inquiétez pas, on vous diffusera les meilleurs moments de ces tables rondes et d'ailleurs leur intégralité la semaine prochaine sur Nutri Radio. Merci Célia.
Merci Fabrice, à bientôt.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.